Dans une classe et dans la vie, il y a des grands et des petits, il y a des blonds et il y a des bruns, il y a des copains et d'autres moyens. On a tous des différences et cette semaine avec passion, on a creusé cette expression et mesuré ses conséquences.
Vous savez quoi ? Les gens, ils ont un point commun. Ils sont tous différents.
On dit que bientôt on pourra créer des clones. Moi, je trouve ça plutôt inutile. C'est vrai que c'est sympa de voir quelqu'un qui nous ressemble, mais c'est bien plus riche de rencontrer ceux qui ne sont pas pareils. Si on était tous les mêmes, ça servirait pas à grand chose d'exister, de se parler, de se rencontrer. L'intérêt, c'est bien d'aller vers les autres, justement parce qu'ils sont différents de nous.
Je fais du hand à haut niveau, et avec les sportifs, on forme un groupe. Un groupe où il y a des filles, des garçons, des noirs, des jaunes, mais un groupe quand même. C'est comme ma deuxième famille. Avec eux, on parle que de sport. Des matchs qu'on a joués, des entraînements, des tactiques de jeu, et surtout, on parle des sportifs de haut niveau. C'est aussi des choses que l'on partage. La fatigue, la sueur, la solidarité, les efforts, les défaites et les victoires. C'est tout ça, ma deuxième famille. Mais heureusement, j'en ai une troisième. Celle à qui je peux parler d'autre chose que de sport. Cette famille, c'est le collège d'Ucresse. Là, on est tous différents. Il y en a plein qui font pas de sport, d'autres qui jouent aux jeux vidéo ou encore qui passent leur temps à faire du roller avec leurs potes. J'ai besoin de ces trois familles différentes pour me sentir libre et trouver mon équilibre. Ça me donne de l'énergie et l'envie d'avancer.
Pour mieux comprendre ce qu'est la différence, on aurait pu lire le dictionnaire ou aller sur internet. Nous, on est allé rencontrer un prof à la fac. Il s'appelle Eric Soriano. Il est sociologue. C'était la première fois qu'on allait à l'université.
C'est plus grand que notre collège.
Plus propre.
Une cafétéria, une bibliothèque énorme.
Un musée à des moulages.
Un théâtre.
Notre collège, il fait juste la bibliothèque.
Et même si la fac et la SECPA, c'est pas pareil, on a eu un peu l'impression d'être des étudiants pendant une heure.
Notre camarade Maxime, il disait que si on était tous pareils, ça n'avait aucun intérêt de se rencontrer. La différence est une force. Qu'en pensez-vous ?
Je le crois aussi. Je pense que la différence est quelque chose qui enrichit, pourvu qu'on soit capable de la saisir dans toute sa variété, en quelque sorte. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'il y avait évidemment toutes sortes de différences, qu'elles pouvaient être sociales. La différence sociale, c'est souvent celle qu'on oublie. On fait comme si elle n'existait pas. On préfère souvent se centrer sur les différences de style de vie, sur les différences culturelles. Et c'est aussi pour cette raison que votre question renvoie beaucoup à la question du rejet de l'autre. Par exemple, le rejet du handicap. On ne sait pas toujours quoi faire face à quelqu'un qui a un handicap mental. Ou le rejet d'une couleur de peau, par exemple. C'est pour ça que je retraduis souvent la question de la différence dans celle, par exemple, du racisme, ou d'un regard quelquefois malveillant sur des gens qui ne travaillent pas très bien en classe. Il y a toutes sortes de différences qui nous invitent à poser cette question. Comment on se comporte face à ça ?
Les générales, on n'arrive pas à trop se mélanger avec les générales de notre collège. Et voilà.
Parce qu'ils nous trouvent différents, certainement. Parce, ouais. Parce qu'on a des difficultés scolaires, parce que ouais, quoi, on est...
bêtes.
Ouais, ouais. C'est ça. Ouais.
À mon avis, s'ils vous trouvent différents, c'est aussi parce que vous êtes différenciés. Dans une même école et quelquefois dans une même classe, c'est le fait que des situations aussi différentes puissent exister, qui enrichit un petit peu les élèves, qui enrichit aussi les enseignants et qui enrichit les individus. Si j'ai dit oui à cette proposition, alors que je n'ai pas forcément l'habitude de parler avec des gens de 14 ans en tant qu'enseignant, c'est aussi parce que je sais que fatalement ça va m'enrichir, ça va me donner des éléments, ça va me faire comprendre des situations.
Que pensez-vous des uniformes à l'école ?
La question de l'uniforme, souvent, pour certains hommes politiques, ou pourquoi pas certains enseignants, elle a souvent été imaginée, même si ce n'est pas forcément une bonne position, pour faire en sorte que certaines différences sociales, de classe, de religion, etc., puissent ne pas se voir, et que dans l'école, on puisse faire comme si on repartait de zéro. En réalité, on ne part jamais de zéro. parce que c'est passé sociologique, on pourrait dire. C'est-à-dire le fait que vous ayez un père chirurgien, ou un père ouvrier, ou un père chômeur, etc. C'est des choses qu'on voit par-delà la façon de s'habiller, par exemple. Mais n'empêche que quelquefois, on aimerait bien que l'école les voit moins pour qu'elle puisse être plus démocratique, en quelque sorte.
Avec les yeux noirs de crayon, avec du vernis noir ou plusieurs couleurs, avec 15 bracelets à chaque bras et 8 bagues aux deux mains. En gros, je suis celle qui se différencie avec son look. Le look, c'est une façon de démarquer sa personnalité, pour ne pas ressembler aux autres. Et si un jour on me demandait de mettre un uniforme, je trouverais toujours un moyen de me démarquer, parce que moi, c'est moi.
Quand on vous a dit la différence, spontanément, vous avez eu quoi en tête ?
Enfin, nous, moi, je croyais c'est qu'on allait parler du racisme.
Ah, voilà.
C'est le sujet le plus, je trouve, le plus...
Le plus d'actualité.
Ouais, voilà.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de différences religieuses. En ce moment, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de débats politiques qui mettaient ça sur la table, la différence entre, mettons, des catholiques et des musulmans. On parle beaucoup des musulmans aujourd'hui. Et c'est quelquefois pour les stigmatiser.
Je sais ça parce que j'ai une voisine qui est à côté de chez moi, qui est musulmane, et elle nous explique plein de trucs. Elle nous explique qu'il ne faut pas détester les gens, les Marocains, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et...
Tu vois, la meilleure chose qui puisse être, c'est que toi, tu habites juste à côté de chez elle, et elle habite donc de fait à côté de chez toi, et donc tu te retrouves avec une voisine, donc tu as parfaitement compris que finalement, elle était peut-être un peu différente parce qu'elle était marocaine, peut-être un peu différente parce qu'elle était musulmane, mais que finalement, elle n'est quand même pas si différente que ça. Elle te ressemble beaucoup plus qu'elle est différente de toi. Et ça, c'est le résultat du fait que tu es tout simplement sa voisine. Quand on connaît les gens, fatalement, on s'aperçoit que les différences, ou que les limites, ou que les frontières s'abaissent. C'est-à-dire que c'est souvent pas tant la question de la différence qui se pose, c'est souvent la question de l'ignorance. Si les gens savaient un petit peu plus ce qu'étaient les religions, y compris quand ils sont athées, moi je suis athée, sans doute qu'ils se feraient des images un petit peu moins fantasmées de ce que c'est que l'islam. Il n'y a pas de choc des différences, il y a toujours surtout un choc des ignorances. Avant de commencer à travailler là-dessus, à réfléchir un peu, qu'est-ce que vous pensiez de tout ça ? Est-ce que vous avez des expériences personnelles qui vous ont conduit un peu à réfléchir à tout ça ? Hakim, est-ce que tu as un exemple de ça ?
Je sais que dans mon village, il y a eu une ratonnade en 2007. Et un jour, il y avait la fête, et ça s'est mal passé avec un jeune. Et donc, le maire, il a attrapé un jeune maghrébin, il l'a mis dans le coffre, et ils l'ont séquestré. Ils en ont attrapé plusieurs, et ils sont battus. Chacun, soit dans son pays, comme ça, il n'y aura pas de problème.
Ça, en général, c'est ce que les racistes pensent.
Bah ouais, non, mais s'ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse ?
Mais il y a des gens qui pensent le contraire de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt envie que tu restes pour plein de raisons, parce que c'est quelque chose qui enrichit considérablement ce pays.
Dans les pays du Maghreb, on nous considère comme des touristes, et en France, comme des Arabes. Moi, je suis d'origine marocaine et je ne suis jamais chez moi. Au Maroc, on me remarque parce que je suis bien habillé, j'ai une plaque française et des euros. Et en France, on me remarque parce que j'ai la peau mate. Des fois, au bled, je vais en ville. Je demande le prix, on m'arnaque. On me dit que je suis un vacancier et que j'ai des sous. En France, quand je suis avec mes potes, on me dit que je suis un arabe. C'est pour rigoler, mais des fois ça me fait pas rire. En fait, je suis un peu des deux. Ma scolarité, elle est ici, ma religion, elle est là-bas. J'ai une maison en France et une maison au bled. J'ai des amis ici et là-bas. Je suis né à Meknès, mais je vis à Montpellier. J'aime aller au bled. C'est là-bas que je passe mes vacances. Par contre, j'aimerais pas y vivre et travailler. Ce que je vis, ça s'appelle une double culture. Un peu d'ici, un peu de là-bas. C'est pas toujours simple de pas trop savoir qui on est, d'être partagé. Mais je crois quand même que ça peut être une chance, parce que j'ai deux cultures, deux langues, deux manières de penser. C'est toujours mieux qu'une.
Dans la classe, à part Hakim et Mustapha,
on n'est pas nombreux à avoir deux pays d'origine, deux cultures, deux langues. On a eu la chance de rencontrer Ali Moudzaoui, qui est réalisateur algérien et qui, lui, sait parler russe, français et kabyle. Dans sa vie, il a connu plusieurs cultures et le sujet de notre émission l'a beaucoup inspiré.
Bonjour, on est des collégiens. On fait une émission de radio sur la différence. Est-ce que vous pouvez vous présenter en langue kabyle?
اسمي هو علي عثموسا خدم غير سورة استقبايليت وقيدة سروسين ولا اما لونغ ماترنال ستون لونغ بربر سي لو كابيل جو ترادوي مون اوريجينال سي علي عثموسا اث سولا فدي لابارتونونس على تريبي دو موسى سي لو دوزيام فيلم كو جو في دون ما لونغ ماترنال.
Quelles sont les différences culturelles que vous avez côtoyées?
De par mon métier, je reste un élément en perpétuel mouvement. J'ai fait pratiquement plusieurs continents. Je me suis intéressé aux cultures, que ce soit asiatiques, Ouzbékistan, Tadjikistan, les cultures caucasiennes. Je me suis intéressé énormément à la littérature japonaise. J'ai fait un cycle de 2 années. Il y a la culture africaine qui est une partie de mon identité puisque je viens d'Afrique aussi. C'est l'Afrique du Nord. Toutes ces cultures mises ensemble nous aident à mieux nous comprendre, à mieux nous tolérer. Et je crois, au-delà de l'acceptation physique, il y a le bonheur d'être différent et d'être ensemble.
Je suis en Tunisie. J'ai dû manger avec les mains. Ça me faisait bizarre au début. Je sais pas, il faut mettre la main gauche, il faut la garder pour s'essuyer. La main propre, l'autre main, il faut manger avec. C'est au premier jour, j'ai mangé une fois avec la main, je n'arrive pas trop, alors je mange avec la fourchette. Et au bout d'une semaine, j'ai réussi, j'ai proprement. Est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé de manger avec les mains, un truc comme ça?
Manger avec les mains, pas spécialement. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'être dans des régions, même en Algérie, où il est... Les gens mangent avec les mains, j'ai fait pratiquement comme eux, mais ce n'est pas ma tradition personnellement. Mais quand on va au sud, il y a des images qui peuvent frapper, je pense, un Européen, tel que consommer des sauterelles, chez eux ça se fait, une cuisine extrêmement piquante, ce qui ne pourrait pas supporter votre palais, je pense. Et puis, il y a... cette tradition aussi d'ingurgiter 3 tasses de thé. Par exemple, chez les Touaregs, où la dernière tasse est une tasse extrêmement amère. La première très sucrée, la deuxième moyenne, et la dernière, c'est du thé très très fort. Et chez eux, c'est mal poli de ne pas boire jusqu'à 3 tasses minimum. Vous voyez, ça, c'est des choses qui peuvent étonner, quoi.
Merci.
Merci.
Je vous remercie d'être venu. Je suis vraiment ravi que des jeunes de votre âge puissent regarder des films de ce genre. Et nous faisons ces films aussi parce que la culture, ce n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi. C'est quelque chose que l'on donne aussi pour les autres. La culture, c'est aussi lorsqu'on prend de chez vous des choses qui deviennent les miennes, comme cette langue, qui me permet d'exprimer, je pense, à avec toutes les nuances que cela demande. Merci à vous tous.
Moi, j'ai un oncle qui est différent. Il n'est pas différent de nationalité ou d'autre chose, non. Il a juste décidé de vivre seul dans la garrigue, dans un endroit calme, loin de toute voiture ou de toute règle. Il en a juste une des règles. C'est de respecter la nature. C'est lui qui a fabriqué sa maison, une écurie, un poulailler et même un canardier. C'est lui qui élève et tue sa viande. C'est lui qui cultive ses fruits et ses légumes. Et ma mamie vient souvent lui apporter le journal et plein d'autres choses. Il sait aussi acheter des panneaux solaires et une éolienne. Comme ça, il produit sa propre électricité. Mais croyez pas que c'est facile. Quand il pleut ou qu'il y a des tempêtes, eh ben, vous êtes seul face à la nature. Mais il y vit bien. J'aimerais bien faire comme lui. Parce que tu rends ta vie en accord avec tes idées.
Et puis, c'est toi le chef de son endroit. Mon oncle, je vais souvent le voir. Je respecte son choix, même s'il a un mode de vie éloigné du mien. Sa différence, c'est un peu sa liberté.
J'ai une malformation au dos depuis la naissance. Alors, je fais du kiné 2 fois par semaine, de la piscine. Je vais souvent chez le docteur. Avant, je portais un corset tout le temps, même pour aller à l'école. Les gens se moquaient souvent de moi. Ils me posaient des questions qui m'embêtaient. Moi, j'en avais marre qu'on me regarde comme quelqu'un de différent. Aujourd'hui, je porte mon corset que la nuit. Ma vie est plus simple maintenant. Je peux m'acheter des habits à la mode. On me regarde moins, je me sens plus comme tout le monde. Dans la vie, on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut avoir un handicap, un accident qui nous arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Alors, ça sert à rien de regarder les gens différents bizarrement. Il faut juste essayer de les comprendre.
On marche pour aller chez Manu. On entend un bruit de canne.
Il y a des différences qui ne sont pas faciles à vivre. Pour mieux comprendre le handicap, on est allé rencontrer Manu chez lui. Il est aveugle, mais grâce à des techniques et beaucoup d'astuces, il a réussi à s'adapter à sa différence.
On va rentrer chez Manu.
Installez-vous, hein. Asseyez-vous. Je sais pas comment la place. Il faut...
Est-ce que quand vous vous baladez dans la rue ou quoi, ouais, vous vous sentez vraiment différent des autres?
Je dirais que c'est à l'extérieur en fait qu'on se sent le plus différent en fait quand on est aveugle. Il y a des fois voilà on peut se perdre par exemple, donc à ce moment-là on va demander son chemin à quelqu'un ou et donc à ce moment-là c'est à partir du moment où on demande de l'aide à quelqu'un, c'est là où ça des fois c'est un peu compliqué parce que les gens ils savent pas vraiment comment s'y prendre en fait. Et par rapport à la enfin, moi, je trouve que par rapport à la différence, ce qui est compliqué, c'est que les gens, ils ont des idées reçues, en fait, sur qu'est-ce que c'est qu'un aveugle, par exemple, et qui ne correspondent pas forcément à la réalité, quoi.
Qu'est-ce que vous ressentez depuis que vous avez perdu la vue?
Oula, c'est... Alors, bon, au départ, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile à vivre, hein, quand vous passez d'une vie de quelqu'un qui voit à une vie de quelqu'un qui ne voit pas, bon, c'est pas... C'est pas facile. Au jour d'aujourd'hui, comment je le vis, ça va plutôt bien. Moi, je trouve ce qui est assez compliqué, c'est au niveau des déplacements, en fait. Disons qu'il y a un certain nombre d'activités que vous ne pouvez plus faire seul, quoi. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus les faire, mais vous pouvez, vous êtes obligé d'être accompagné, quoi. Disons que voilà, il faut accepter à un moment donné de se dire, ben voilà, il y a des choses, il va falloir que je me fasse aider par quelqu'un.
Est-ce que vous travaillez? Et si vous travaillez, est-ce que vous avez une aide au travail?
Alors, je travaille. Donc, je travaille dans une association qui s'appelle l'Union des aveugles à Montpellier. Et donc, je donne des cours d'informatique aux personnes, justement, aveugles ou malvoyantes. Et est-ce que j'ai des aides? Oui, donc j'ai des aides. Donc, les ordinateurs pour les personnes qui sont aveugles sont équipés. Enfin, on installe, en fait, un petit logiciel qu'on appelle un lecteur d'écran. C'est-à-dire qu'il va lire ce qu'il y a à l'écran.
Est-ce que vous êtes d'accord qu'on aille voir le synthèse, le lecteur d'écran?
D'accord, allez, on est parti. Bon, alors au départ, il ne faut pas être effrayé parce que moi, donc on peut régler en fait la vitesse de la voix. Donc il est réglé très vite. Donc là, j'ai un raccourci clavier par exemple pour aller sur le bureau. Donc. Voilà, par exemple Word. Donc, j'ouvre Word. Et après, bon, soit je peux taper. Ensuite, donc, il y a des touches pour aller dans les menus. Hein, si je veux.
C'est hallucinant.
Je vais sélectionner mon mot.
La rapidité de la voix quand il écrit et tout ça. Nous, on ne comprend pas, mais à un moment qu'ils sont habitués, après, ils deviennent...
Voilà, je le mets en gras.
Ils comprennent tout ce qu'ils disent, mais en vitesse rapide.
En fait, tu comprends rien, quoi.
quand t'as pas l'habitude, tu es là. Qu'est-ce qu'il a dit là?
Ouais, c'était pour savoir qu'est-ce qui vous a programmé cette voix sur l'ordinateur.
Alors ça, c'est un logiciel qui s'achète. Ça, c'est important aussi par rapport à vivre sa différence. Le logiciel de lecteur d'écran, si vous l'achetez, ça vaut entre 2500 et 3500 euros. Rien que le programme, hein. D'accord, sans compter l'ordinateur et tout ce qui va avec. Hein. Alors, sachant qu'il y a des aides, un petit peu du département, quoi, des aides pour achat de matériel, mais qui n'englobent pas la totalité du coût du matériel. Quoi. Voilà, tous ces matériels, il en existe des tas comme ça. Le problème, c'est que c'est hors de prix. Quoi. Parce qu'après, on parle d'autonomie, mais bon, voilà, si vous voulez vous acheter ce logiciel-là, JAWS, ben voilà, il faut débourser 2500 euros.
Moi, je ne suis pas le même quand je suis au travail ou quand je suis à l'école. À l'école, je ne vais pas souvent en cours. Je fais le con, je réponds même aux profs des fois. Au boulot, par contre, j'ai un bon comportement. Je fais ce qu'on me demande sans gueuler. Je respecte les gens qui sont avec moi. En fait, à l'école, je me sens nul. Je connais pas beaucoup de choses. Et ça fait longtemps que ça dure. Depuis le CE2, je crois bien. Alors, je fais plus d'efforts. Mais au boulot, en boulangerie, là, je me sens à l'aise. Je connais déjà le travail parce que j'ai un oncle qui est boulanger. J'aime bien faire le pain, les gâteaux, les croissants, tout ce qu'il m'a appris. Moi, je crois bien qu'on se comporte comme on se sent. Si on est bien, on se comporte bien. Et si on se sent nul, eh bien, on est nul.
Pour les autres du collège, ceux qu'on appelle les générales, on est tous les mêmes à la SECPA. Pourtant, dans le groupe, on peut pas dire qu'on soit pareil. L'autre jour, ma classe et moi, on était dans les couloirs, et une élève de général a crié « Hé, les SECPA, faites moins de bruit !» Pourquoi les gens nous appellent les SECPA? J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des débiles, qu'ils nous mettent tous dans le même sac. Ça m'énerve! Pourtant, dans ma classe, nous sommes tous différents. Il y a des garçons, des filles, des gens de diverses origines, des gens qui pensent différemment. Moi, je ne vois pas la différence entre les générales et les SECPA. Nous sommes pareils, des élèves comme les autres. Notre seul problème, c'est nos difficultés scolaires. J'ai du mal à comprendre pourquoi tant de gens n'acceptent pas cette différence. Leur moquerie, leur façon de nous regarder, de parler de nous, ça me saoule. Les générales, ils forment un clan, ils pensent tous pareil. Ils s'habillent pareil, et nous, on se moque pas. Tiens, finalement, c'est rigolo. Moi aussi, je viens de les critiquer en les mettant tous dans le même sac. Je fais comme eux, en fait. Je crois bien que quand on ne connaît pas, on met vite une étiquette.
On vous apprend rien quand on dit qu'on est tous différents et que c'est pas toujours facile à vivre. L'important, c'est de faire l'effort de s'accepter tel que l'on est et de prendre les gens comme ils sont. En fait, il faut de tout pour faire un monde sympa. Et d'ailleurs, ça serait pas ça qui fait de nous des êtres humains, un mélange de toutes ces différences?
Et bien voilà, l'émission est finie. C'était une semaine sacrément différente pour notre classe. On tient à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réfléchir sur le thème de l'émission.
Merci à l'association Regard sur le cinéma algérien qui nous a permis de rencontrer le réalisateur Ali Mouzaoui. Son interview nous a fait réfléchir sur la différence de culture. On remercie le directeur du Diagonal, Antoine Périniguez, qui nous a ouvert les portes de son cinéma.
Merci aussi à Manu qui nous a reçus chez lui, ainsi qu'à Eric Soriano de l'Université de Paul Valéry. Merci encore à l'association Wakadi, à Capucine et Jean-Jacques, à nos profs et aux autres élèves de nous avoir aidés.
Pour réaliser cette émission, il y avait Louis,
Florian,
Cédric,
Camille,
Hakim,
Robin,
Alicia,
Brittany,
Jordan,
Mostafa,
Melissa,
Maxime,
Quentin,
Florian
et Émilie.